Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. Alors au programme cette semaine, vous n'arrivez pas à canaliser votre chien. Il aboie sans cesse, il saute sur les gens. Alors aussi mignon soit-il, son énergie vous déborde. Notre éducatrice Chloé Fesch est là pour vous aider à gérer votre toutou tout fou. Dans notre chronique à l'état sauvage, nous fêterons la fête des pères. Quel rapport avec les animaux, me direz-vous? Eh bien, vous découvrirez que chez les animaux, il y a aussi des super papas. C'est Pierre Rigaud qui nous expliquera tout cela. Enfin, dans C'est votre histoire, nous parlerons de médiation animale. Vous verrez que la relation à l'animal rend de nombreux services à l'être humain. Merci à vous d'écouter vos animaux, 0826 300 300. On vous attend bien sûr, comme chaque semaine, au standard de Sud Radio. Et on commence cette émission tout de suite avec vous, Gaspard. Bonjour Gaspard.
Bonjour Natacha, bonjour à tous.
Vous êtes en forme ce matin?
Toujours, comme
bon.
Chaque samedi.
Alors on va démarrer avec le journal des animaux et Gaspard.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et on commence, Gaspard, avec une bonne nouvelle qui nous vient du Canada.
Il est désormais interdit dans le pays de garder des baleines et des dauphins en captivité ou de les élever. Les parlementaires d'Ottawa ont validé en début de semaine un projet de loi qui modifie le code pénal pour interdire la possession et la reproduction forcée de ces mammifères marins. Il existe cependant des exceptions, notamment dans le cas d'animaux nécessitant une réhabilitation à la suite d'une blessure ou d'une autorisation fournie par les autorités. Notez que dans le monde, une dizaine de pays ont interdit la reproduction en captivité.
Vous êtes très outre-Atlantique cette semaine puisque vous nous emmenez maintenant en Floride où deux girafes d'un parc animalier ont été tuées dans des conditions assez incroyables.
Une tragédie que l'on doit à la foudre qui s'est abattue sur les pauvres bêtes agissant comme un paratonnerre. Leur long cou est sans doute à l'origine de cette terrible nouvelle. Pourtant, le parc dispose de systèmes de détection de la foudre qui ouvrent des abris pour animaux lorsque les tempêtes sont proches. Malheureusement, les girafes n'ont pas eu le temps de rejoindre l'un d'eux. Lion Country Safari est un parc zoologique ouvert depuis 1967 qui compte plus de 900 animaux dans sa réserve et de 121 hectares.
Un accident rarissime, hein, oui. Bien sûr, mais quand ça arrive, c'est effectivement dramatique. On retourne en France maintenant, plus précisément en Occitanie.
Du côté de Percave, où l'association Les Sabots dans le potager organise demain un vide-grenier pour venir en aide aux animaux en détresse. Une association qui les accueille, les soigne et leur apprend à refaire confiance à l'être humain avant que les animaux jugés en état physique correct soit proposé à l'adoption, mais tout cela a un prix, raison pour laquelle l'association, qui ne reçoit aucune subvention, a eu le projet d'un événement comme ce vide-grenier afin de pouvoir récolter des fonds et continuer à sauver des animaux dans le besoin.
C'est bien hein, ces petits coups de projecteur. D'ailleurs, si vous-même vous œuvrez pour une association locale comme ça, qui sont souvent démunies, ben, n'hésitez pas à faire appel à nos services. On peut aussi relayer vos différentes activités. On est là pour ça et on le fera avec grand plaisir. Allez, place à vos animaux et vous et notre éducatrice canine.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Alors, vous adorez votre chien, mais franchement, son énergie débordante est parfois pénible au quotidien. Il ne tient pas en place, il aboie sans arrêt. Alors, comment canaliser votre toutou? C'est Chloé Fesch, notre éducatrice favorite, qui va nous éclairer. 0826 300 300, vous connaissez bien sûr le numéro du standard. N'hésitez pas à réagir et n'hésitez pas non plus à nous poser toutes vos questions. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors Chloé, ces problèmes d'excitation, d'agitation font partie, j'imagine, des problèmes les plus fréquents que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier.
Oui, exactement. C'est quelque chose qui revient très très souvent. Les gens qui n'arrivent pas à faire écouter leurs chiens, les chiens trop énergiques pour se concentrer, c'est souvent un problème récurrent en effet.
On a déjà une auditrice au standard de Sud Radio, c'est Delphine. Bonjour Delphine.
Oui, bonjour à tous. J'ai un petit cairn terrier.
Oui.
Que j'ai adopté à l'SPA il y a 10 ans maintenant.
D'accord.
Il est extraordinaire. Il n'y a qu'un seul défaut. C'est qu'on habite, j'habite à côté d'Avignon, dans un petit village en campagne. Et juste à côté de la maison, on a des serres.
Oui.
Et des maraîchers.
Des serres agricoles.
Voilà.
J'avais en tête donc... les serres, les animaux. Vous voyez, c'est
oui,
une déformation.
Donc, mon chien Adox est libre dans le jardin,
oui.
Mais il ne sait pas voir l'agriculteur.
D'accord. C'est-à-dire que dès que l'agriculteur passe...
Ah, c'est une horreur. Une horreur.
Il fait quoi ?
Pas moyen de le calmer. Il aboie, il veut... Alors, c'est marrant parce que même si on a le portail ouvert, il ne va pas y aller. On dirait qu'il y a une limite invisible.
D'accord. Donc, c'est déjà une bonne chose.
Voilà. Sauf si moi, je sors de la maison et que je dépasse le portail, il me suit et là, il attaque l'agriculteur.
Ah oui, carrément. Il l'a déjà mordu ?
Oui.
Bon, Chloé, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ok. Alors, c'est uniquement avec cette personne-là. Le reste du temps, il n'y a aucun problème.
Ouais,
d'accord.
Ouais.
Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, si c'est possible, ce serait de reprendre, en fait, un travail d'habituation avec cette personne-là.
A priori, je ne suis pas sûre que l'agriculteur, Chloé, sera forcément d'accord. Hein. Vous vous entendez bien, Delphine, avec votre voisin ?
Ah oui, on s'entend super bien.
Alors, ça peut aider.
Mais mon chien, c'est impossible que je... Si je lui parle, il s'appelle Kader. Si je parle à Kader, Adox, il devient fou.
D'accord.
Il devient fou, il n'arrête pas d'aboyer et il veut à tout prix le mordre.
D'accord. Bah, en fait, voilà, vous avez deux solutions. Soit vous arrivez à mieux contrôler votre chien au moment où l'agriculteur passe. Donc là, ça ne nécessite pas de travailler avec la personne, mais c'est vraiment de l'éducation. Travailler vraiment, renforcer le rappel pour que votre chien, en toutes circonstances, quand vous le rappelez, il revienne vers vous. Notamment, travailler aussi en laisse pour sécuriser l'exercice, parce que si malgré votre appel, il part quand même, ça ne va pas aller. Donc il va vraiment
falloir reprendre une base éducative. Dans ce cas-là, on fait quoi ? On met une grande longe, Chloé ?
Exactement. Oui, très grande longe.
Il a 10 ans, il n'est pas trop tard ?
Non, il peut toujours apprendre à 10 ans, il n'y a aucun problème. Ah, et l'autre solution, l'autre piste, c'est finalement de votre chien l'a associé cette personne-là négativement, a priori. Donc ce serait de reprendre un travail d'habituation plus positif avec cette personne. Alors ça peut être plus long, ça peut être plus compliqué. À 10 ans, c'est un petit peu moins simple. C'est pas inenvisageable, mais voilà, déjà de façon concrète et rapide, vous pouvez vraiment renforcer les
bases. Moi, j'aimerais bien qu'on soit très concret parce que je sais que le problème que rencontre Delphine est certainement rencontré par d'autres auditeurs.
Bien sûr.
Quand vous parlez de reprendre l'habituation, c'est-à-dire concrètement, Delphine, elle doit faire quoi avec son chien ?
En fait, alors, faudrait changer l'association que le chien a vis-à-vis de cette personne. Donc, il faut que la personne devienne pour le chien quelque chose d'agréable. Alors, ce qui peut être intéressant, si votre chien aime les balades, par exemple, c'est que vous alliez vous promener ensemble. Que la personne n'ait pas une attitude menaçante. Donc, par exemple, si c'est une très grande personne, qu'elle soit un petit peu de dos ou de trois quarts, qu'elle puisse peut-être même jouer avec ou lui donner des friandises. L'objectif, mais il faut y aller par étapes, parce que si le chien là, il fait une fixation, au début, ça va peut-être pas être très simple. Mais déjà, quand l'aise, vous alliez vous promener avec votre chien et que la personne soit à proximité, de jouer, de proposer des moments comme ça, travailler avec un autre chien qui, lui, n'aurait pas peur de cette personne, n'aurait pas d'agressivité avec, ça peut aider aussi. Après, il faut pouvoir le faire. En tout cas, il faut le travailler parce que les cas de morsure, c'est quand même assez grave et ça peut, ça peut déclencher, là, vous avez de la chance de bien vous entendre avec cette personne, mais ça peut déclencher après des soucis plus gênants, voire même le
tabac. Delphine, j'ai une petite question. Donc, si on a bien compris, votre chien ne fait ça qu'avec Kader, votre voisin. Est-ce que votre voisin a une tenue de travail particulière, genre un bleu de travail, vous voyez, qui
ah, non, pas du tout.
Non, pas du tout. Donc ça ne peut pas être ça. Parce qu'on sait que parfois, il y a des uniformes qui peuvent déclencher des réactions de la part de certains chiens.
Tout à fait.
Alors, parce que j'ai une amie qui habitait au fond du jardin, on a un studio, et qui a vu Kader lancer des pierres à mon chien.
Ah.
Et je pense que, après moi c'est ma psychologie animale, que mon chien a enregistré.
Je crains que vous ayez raison, qu'est-ce que vous en pensez Chloé ?
Tout à fait, c'est-à-dire que là pour le coup, l'association négative que votre chien a fait, elle est assez logique parce qu'il a bien compris, il n'est pas bête, que cette personne a déjà eu une interaction qui lui ne lui a pas plu à votre chien. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir dessus. Mais déjà, premièrement, vraiment renforcer l'éducation pour que votre chien vous écoute, qu'il soit là ou pas. Après, que vous recevez beaucoup de personnes chez vous, des invités, des choses comme ça, et ça se passe toujours bien.
Mais tout le monde peut rentrer chez moi.
Très bien.
Kader.
Ok. Sauf lui.
Ouais, donc il a dû quand même se passer quelque chose entre Kader, votre voisin, et Adox, votre chien, visiblement.
Mais déjà, essayez peut-être de sortir de l'espace, parce que votre chien s'est aussi habitué à la maison à avoir cette attitude avec lui. Donc, pourquoi pas essayer de faire une balade en extérieur, en laisse, comme ça, votre chien ne peut pas aller attaquer cette personne.
Ah, mais si. Mais vous savez, j'ai déjà essayé, parce que je l'ai baladé, mes chiens. J'en ai un deuxième avec qui ça va, mais j'ai peur, comme c'est un chiot, j'ai peur qu'il prend exemple sur Adox.
Ah ben c'est sûr que les deux chiens, Chloé, vous êtes d'accord, peuvent s'auto-stimuler par rapport au voisin. Le deuxième ne sachant pas forcément pourquoi, d'ailleurs.
Voilà, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Si le chiot a un très bon comportement, ça peut aussi aider votre chien à problème à se calquer aussi sur ce comportement-là. Donc c'est, ça peut être qui tout
d'un coup. Alors je sais comment je vais faire. Je vais utiliser Odéon en parlant avec Kader, et je dirai à Kader qu'il peut caresser Odéon. Adox va voir que c'est un ami.
Ça peut être ça. En tout cas, faut pas que que l'agriculteur, que cette personne aille tout de suite caresser votre chien qui ne l'aime pas. Travaillez vraiment par étapes. Hein.
Et qu'il comprenne que lancer des pierres n'est pas la meilleure manière d'être le copain de votre chien, Delphine.
Voilà, qu'il lui lance de la nourriture plutôt, ça aidera mieux.
Alors non, parce que Adox, je ne sais pas ce qu'il a connu avant, hein, parce qu'il était un chien que j'ai adopté qui était à la SPA. En même temps, je trouve que c'est une qualité. Il n'accepte rien, aucune nourriture,
même
un morceau de viande, il ne mangera pas.
Bah, c'est plutôt pas mal, effectivement.
Vous savez, même nous, quand on lui donne à manger, il ne mange pas tout de suite. Il nous regarde, la gamelle, il nous regarde, il attend.
Bon, Delphine, un dernier conseil. Essayez de faire ce que Chloé vous indique. Et puis, si vous vous sentez un petit peu démunie, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous accompagner une ou deux séances chez vous. Ça peut vraiment, vraiment aider. Merci pour votre appel, en tout cas. Mettez tout ça en application et puis tenez-nous au courant. Et nos salutations à Kader, à Adox et à Odéon. Allez, très bon week-end à vous, Delphine. Courte pause et on se retrouve après, toujours en compagnie de notre éducatrice Chloé Fesch, pour parler de votre toutou qui déborde d'énergie, une énergie qu'il faut apprendre à canaliser.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin, en compagnie de notre éducatrice Chloé Fesch, on conseille les maîtres qui ont un chien qui déborde d'énergie. L'énergie, c'est bien sûr formidable, mais parfois, ça peut aussi devenir gênant. 0826 300 300, n'hésitez pas à nous appeler pour un témoignage ou pour un conseil, vous êtes bien sûr les bienvenus. Chloé, certains chiens ont vraiment la fâcheuse habitude de sauter sur les gens. Ça, c'est un problème qu'on entend fréquemment dans la bouche de nos auditeurs. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces auditeurs qui rencontrent justement ce problème?
Alors déjà, il faut savoir que quand votre chien vous saute dessus, très souvent, c'est pour obtenir votre attention. Donc il a bien compris qu'en mettant les pattes sur vous, vous vous occupiez de lui d'une façon ou d'une autre, même si c'est pour le repousser et lui dire non, pour beaucoup de chiens, ils y trouvent quand même un intérêt. Donc le premier conseil, c'est vraiment d'arrêter de ne pas en fait valider votre chien d'avoir ce comportement, encore plus si c'est un chiot, autant partir tout de suite sur les bonnes bases, et donc de vous retourner, de tourner littéralement le doigt à votre chien quand il a ce comportement, attendre qu'il se calme, et là, à ce moment-là, lui accorder votre attention, etc. Pour les cas de chiens avec un très gros gabarit et on ne peut pas vraiment ignorer, ou si voilà, physiquement, il va avoir tendance à le faire sur des enfants ou des personnes âgées, là, le conseil supplémentaire, c'est de demander à votre chien une indication, comme par exemple de s'asseoir, tout simplement, et de, tout simplement, il faut lui apprendre avant, hein, bien entendu, mais lui demander le assis avant ou juste au moment où il saute, va lui permettre, lui, de s'asseoir et d'obtenir ce qu'il veut avec l'attitude qui vous convient plus, donc le assis. Et dernier point, c'est la dépense d'énergie de votre chien. C'est qu'en effet, un chien qui a beaucoup d'énergie parce qu'il manque de stimulation physique ou mentale, vous aurez beaucoup plus de mal à le calmer. Donc, il faut aussi répondre aux besoins de votre chien pour que toutes ces bases éducatives soient plus facilement réalisables et effectuées de la part de votre animal.
Eliane a composé le 0826 300 300. Bonjour Eliane.
Bonjour Eliane.
Bonjour.
Vous rencontrez un problème, vous aussi, avec votre toutou?
Oui, bien sûr, oui. Depuis un an, ça dure.
Alors, racontez-nous
avec
tout ça.
Tout petit, comment?
Racontez-nous tout ça.
Un tout petit chihuahua, qui a déjà 2 ans, et ça fait un an qu'on l'a, et il ne veut pas voir mon ami avec qui je vis, voilà.
Ah, effectivement.
Et alors, il n'y a pas moyen. Nous avons vu une comportementaliste. Cette comportementaliste est venue 2 jours à la maison.
Oui.
Et elle a dit, vous n'en ferez rien, il n'est pas normal. Bon, on voit déjà ça. Ah. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout anormal. Il est bien normal.
Oui, c'est un petit peu après, catégorique quand même, comme, comme analyse. Quand vous dites qu'il ne peut pas voir votre ami, comment ça se manifeste concrètement?
Ça se manifeste que quand il est là, à la maison, vers moi, il tourne en rond partout, il se cache partout.
Ah oui,
pas
c'est-à-dire qu'il n'a pas un comportement d'agressivité vis-à-vis de votre ami, mais au contraire, plutôt de la peur, finalement.
Oui, de la peur, voilà, c'est ça, tout à fait. Il a peur, il se cache, il est tout fou. Alors que là, vous voyez, il n'est pas dans la maison, mon ami, là, il n'est pas là. Et là, il est dans sa panière, couché à côté de moi, il ne bouge pas. Mais dès D'accord. qu'il le voit, c'est...
Chloé,
alors, par contre,
que... oui.
par contre, excusez-moi, il porte des appareils pour l'acouphène et puis pour la surdité en même temps. Alors moi, j'y attribue à ça. Je dis ça vient peut-être de là, mais d'après le spécialiste qui fournit les acouphènes...
Est-ce qu'il a essayé de retirer ces appareils
juste... Oui, il l'a fait, mais ça, il ne fait rien du tout.
D'accord. Voilà. Chloé, D'accord. qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, déjà, votre chien n'a ce comportement pareil qu'avec cette personne-là, avec d'autres individus, hommes,
non.
de même gabarit.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Avec D'accord. un autre homme, okay. ça se passe très, 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 très bien.
Même si c'est à la maison aussi, dans le même contexte,
même si c'est à la maison, il va vers les D'accord. autres hommes, mais sauf mon ami. C'est catégorique. Hein.
Et qu'est-ce que votre ami fait quand votre chien a ces comportements-là?
Il essaye de l'ignorer parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, il en a marre, et puis D'accord. voilà, et c'est tout.
Okay. Surtout, vous avez essayé en extérieur?
Chien pareil, j'avais un chihuahua, exactement, que j'ai gardé 7 ans, malheureusement, oui. Il n'y avait pas du tout de problème. Malheureusement, oui. je l'ai fait écraser, parce que je le promenais sans laisse, voilà. Donc D'accord. c'est fautif. Alors celui-ci, par contre, le promène avec une laisse.
D'accord. Vous l'avez acheté où, Eliane, votre chien?
Dans un élevage, oui, tout à fait.
Un élevage que vous connaissiez ou que
non,
vous avez...
non, que je connaissais pas, non. Non, parce que quand j'ai fait écraser l'autre, nous sommes allés, mon ami est allé sur Internet et on a trouvé le sosie de mon autre chien, exactement le même, la même couleur, tout fait pareil, exactement. Et là, j'ai téléphoné à ces gens-là, ils me l'ont amené, et puis quand je l'ai vu, je me suis mise à pleurer, puis j'ai dit, écoutez, moi je le garde, voilà.
Ça veut dire que vous ne vous êtes pas rendu dans l'élevage?
Non, je l'ai pas vu du tout.
Je vais bien sûr laisser la parole à Chloé pour des conseils pratiques dans votre cas, mais un conseil un peu plus global pour l'ensemble des auditeurs, c'est vrai que quand on fait l'acquisition d'un chien dans un élevage, on conseille vraiment aux futurs acquéreurs du chien de se rendre dans l'élevage, parce qu'il faut voir les conditions d'élevage.
C'est
C'est vrai pour toutes les races, mais il y a des petites races comme les chihuahuas qui sont peut-être encore plus sensibles que d'autres. Si le chien est élevé sans aucune stimulation, s'il grandit pendant les premières semaines de sa vie, sans voir personne dans une pièce...
C'était leur cas, là. Il y en avait 3 ou 4, je ne sais plus, pareil. Et c'était leur cas.
Ça n'aide pas à rendre les chiens extrêmement sociables.
Voilà. Ils connaissaient juste le bruit des avions et le bruit de l'autoroute, quoi. Voilà.
Alors, Chloé, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Eliane et comment vous interprétez l'attitude de son chien?
Alors, je pense que ce qui serait intéressant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment votre chien, donc c'est vous, je pense, qui allez le promener, le nourrir, qui jouait avec, etc., qui proposait des câlins. Il serait bien, en fait, que votre ami participe davantage à ces rituels-là, notamment donner la gamelle, par exemple, promener, jouer et compagnie, parce qu'il faut que votre chien accepte, en fait, cette...
Non,
ouais, alors allez-y peut-être plus par étapes. Vous voyez, ça peut être quelque chose où, je sais pas, par exemple en balade, vous y allez tous les deux et petit à petit votre ami va proposer des contacts. Si votre chien aime beaucoup jouer,
il se tourne et puis il lui donne, mais il vient pas le manger dans sa main, il lui le jette par terre, alors il mange.
Au départ, c'est pas grave.
Il se ressort.
Faites déjà ça. Mais au départ, c'est pas grave, votre chien, il apprend quand même que cette personne lui propose quelque chose. Il peut essayer de se mettre à coupe, il paraîtra moins imposant aussi. Et déjà, ne faites pas ça à la maison, essayez de faire ça en extérieur. Ça aidera toujours plus qu'à la maison où il est déjà habitué à avoir cette attitude-là. En tout cas, il faut que votre ami devienne pour votre chien un membre de la famille, finalement, comme vous.
Voudrais,
et ça passe par des interactions. Après, je peux comprendre que votre ami soit un peu agacé par cette attitude, parce que voilà, c'est pas forcément très agréable.
Oui, c'est pas très plaisant.
Reste positif. Voilà. Mais il faut que son attitude soit la plus positive possible parce que votre chien ressent aussi finalement les états émotionnels des humains. Et plus il va se mettre dans un état émotionnel où il va prendre plaisir à prendre du temps avec le chien et allez-y vraiment par étapes. Ça, c'est vraiment important.
Alors là encore, Chloé, essayons d'être assez concret. Je sais que je vous demande des choses parfois un petit peu difficiles, mais dans le cas du chien d'Eliane, sur combien de temps elle doit-elle faire tout ça pour voir les premiers signes, pour comprendre justement cette notion de progressif, hein.
Ouais, disons que ça va vraiment dépendre du tempérament du chien et de son degré d'appréhension au départ.
Bah là, on voit que c'est très fort quand même, visiblement.
Voilà. Normalement, sur une séance, si c'est bien monté, vous avez une amélioration. Le problème n'est pas réglé du tout, mais le chien va venir un peu plus près, ou il va venir un peu plus, il va rester un petit peu plus longtemps. Dès l'instant que vous observez ces petits signes-là, si vous êtes sur le bon chemin. Si, quand vous faites une séance, votre chien, plus vous le faites, plus votre chien s'éloigne et moins il veut venir, c'est que c'est pas bon. C'est que la méthode, en fait, est trop invasive pour votre chien. Et c'est là que c'est important, c'est que très souvent, les maîtres veulent aller trop vite et le chien vit une mauvaise expérience au lieu d'en vivre une bonne. Donc, des fois, il vaut mieux faire un tout petit peu. Si le chien ne prend pas dans la main, c'est pas grave. S'il vient à 2 mètres, c'est bien. Au départ, c'est pas grave. Qu'il prenne à 2 mètres, c'est très bien. Vous allez voir qu'à fort, il va prendre à 1 mètre et à 50 cm et à côté du mètre.
Il faut pas vous décourager, Eliane. Il y a toujours des progrès possibles.
C'est vraiment de la démence. Non. C'est infernal.
Oui, on comprend que ce soit compliqué pour vous, mais vraiment, essayez, continuez, persévérez, parce que vous devriez vraiment...
J'ai vu aussi une dresseuse déjà 2 fois. Ça n'a pas marché.
Alors, il faut vraiment...
qui est venu à la maison pour se rendre compte. Ça ne marche pas non plus.
Il faut vraiment prendre des gens qui travaillent en éducation positive, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des méthodes douces, hein, qui ne vont pas être dans la contrainte par rapport à votre chien.
Oui, ça c'est important, c'est essentiel.
C'est vraiment essentiel. Bon, Eliane, on vous souhaite beaucoup de courage, mais continuez, je pense que vous êtes quand même sur la bonne voie, vous faites des démarches, on voit que vous avez envie que ça s'améliore. Il n'y a pas de raison que ça ne s'améliorera pas, Ça ne sera peut-être pas optimal, mais votre chien peut progresser un petit peu. Courage.
Exactement.
On vous embrasse, Eliane. Passez un excellent week-end. Chloé, moi, j'avais encore plein d'autres questions, mais peut-être une question très importante qui concerne la cohabitation chien-enfant, surtout quand on a des chiens pleins d'énergie. Que faut-il faire ou ne pas faire pour éviter notamment les morsures? Parce qu'on sait que les enfants sont les premières victimes des morsures.
Exactement.
Et vu leur petite taille, quand ils se font mordre, c'est souvent au visage et ça entraîne des traumatismes à la fois psychologiques et parfois aussi physiques.
Tout à fait. Alors déjà, il y a vraiment une règle. Et là, j'ai envie de dire, peu importe le chien, l'âge qu'il a, le gabarit qu'il a, il n'y a vraiment aucune exception possible. C'est de ne jamais laisser un chien et un enfant sans surveillance. Ça, c'est vraiment essentiel parce que l'enfant n'interprétera pas le chien de la bonne façon. Le chien peut avoir des attitudes qui sont juste un petit ras-le-bol, mais sur un enfant, ça peut se manifester de façon beaucoup trop violente ou même un chien un peu trop brusque qui, sans vouloir être méchant, va bousculer un enfant, etc. Donc là, le contrôle de l'adulte est tout le temps indispensable. Et ça, c'est vraiment la règle à retenir, c'est que l'enfant et le chien sont tout le temps sous la surveillance d'un adulte.
Et puis après, il y a des moments clés dans la journée, notamment le moment des repas.
Voilà, le moment des repas, c'est important. Et en fait, il y a vraiment 3 conseils autour de la maison qui sont importants. C'est déjà tout ce qui va être le canapé. Le canapé, ça doit être un endroit que le chien ne doit pas, il ne doit pas pouvoir y accéder sauf si on lui demande d'y aller. Ce que j'entends par là, c'est que très souvent, un chien sur un canapé va dormir. Un enfant, surtout les jeunes enfants, eux, vont plutôt jouer, courir, sauter sur le canapé.
Oui.
Et ça crée des grosses incompatibilités. Il y a beaucoup de cas de morsures parce que le chien était sur le canapé et l'enfant a surpris le chien sur le canapé parce que l'énergie est différente. Donc là, c'est une des règles. Le chien ne devrait pas monter sur le canapé ou sur indication. Et à ce moment-là, le maître lui demande de monter quand les enfants sont couchés, admettons, ou dans un moment contrôlé. Ça, c'est le premier point.
Et dernier point, peut-être celui aussi des temps de repos du chien.
Voilà, de respecter. Et d'ailleurs, le panier.
C'est un peu la même chose d'ailleurs que le canapé, mais ça ne se passe pas forcément sur le canapé tout le temps.
C'est ça. Et c'est pour ça que le panier du chien doit être un endroit où l'enfant n'ira jamais déranger son animal. C'est vraiment essentiel. C'est pour le chien, le panier du chien, ça doit être son refuge. Quand il a envie d'être tranquille, il doit comprendre qu'en allant à sa place, on le laissera tranquille. Et ça évite aussi l'irritation du chien.
Donc, il faut éviter que l'enfant le suive dans le panier et vienne l'embêter alors que le chien veut être tranquille.
C'est hyper important.
Chloé, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Grâce à vous, chaque semaine, on en sait un peu plus sur le comportement de nos chiens et surtout comment vivre en harmonie avec eux. Allez, courte pause et on se retrouve juste après, toujours dans Vos Animaux. On va parler de faune sauvage et de médiation animale.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, Vos Animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'écouter Sud Radio, merci d'écouter Vos Animaux. Au programme, dans la suite de cette émission, notre séquence à l'état sauvage, nous fêterons la fête des pères, car dans la nature, les papas ont souvent un rôle important dans la survie ou dans l'éducation de leur progéniture. Et puis, coup de projecteur ce matin sur la médiation animale avec la fondation AP Sommaire, nous verrons que les animaux nous font du bien, beaucoup de bien.
Mais pour l'heure, les questions veto qui vous sont posées, Natacha.
Sud Radio, Vos Animaux. Question veto.
Et on part du côté de Bordeaux. Anne-Marie a composé le 0826 300 300. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Je vous écoute.
Moi, j'appelais puisque, voilà, j'ai un chat qui est né en janvier 2004.
D'accord.
Bon, c'est vrai que ça fait quand même trois bonnes années qu'il réclame sans arrêt à manger, tout le temps, il me réveille la nuit, enfin bref. Bon, en plus, c'est vrai que depuis 2014, c'est-à-dire depuis plus de 5 ans, ma fille a coupé tout contact avec nous, donc le chat qui était très attaché aussi, bon, qui me voit pleurer souvent aussi, ça doit pas être la joie. Là, il a perdu, il avait, parce que ça a repoussé, il avait perdu plein de poils sur le ventre.
Oui, à des endroits très localisés.
Oui, le ventre, tout l'abdomen.
D'accord.
Bon, là, ça a repoussé. Bon, je suis allée au cabinet vétérinaire ici. Bon, je ne dirais pas où j'habite, mais ils sont complètement nuls.
On ne va pas le dire, oui, vous avez raison.
Voilà,
mais ça peut arriver.
Voilà, 600 euros en 3 mois pour pas grand-chose.
Qu'est-ce qui a été fait alors?
Sauf récemment, ils ont fait quand même un bilan, une prise de sang senior, bon, pour voir s'il n'y avait pas d'hypo. Comment ça s'appelle comme
thyroïdie.
Voilà, c'est ça. Bon, apparemment, ils n'ont rien trouvé. Ils avaient un doute. Et puis, apparemment, ils me disent après que non. Bon, alors...
c'est bien qu'ils aient fait cette démarche, quand même. Je ne veux pas prendre leur défense. Je ne les connais pas, mais c'était la bonne démarche à avoir face à un chat âgé.
C'est moi aussi qui leur ai demandé
de faire cette prise de sang.
Centaines d'euros à chaque fois.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans le bilan sanguin qui était alarmant?
Eh bien non, justement, il m'avait parlé de quelque chose là qui dénoterait une hypothyroïdie.
Oui.
Et puis après, ils ont regardé de plus près, ils ont dit non.
D'accord, donc la thyroïde, tout va bien, le foie, tout va bien, les reins aussi?
Bah apparemment, oui.
Apparemment, tout va bien de ce côté-là.
Oui,
j'ai envie de vous dire, certes, vous avez payé cette analyse sanguine, entre guillemets, pour rien, parce qu'il n'y a rien,
mais
c'était bien de le faire. Votre vétérinaire a eu la bonne démarche par rapport à ça, Anne-Marie. Essayez aussi d'être avec lui, peut-être rassurante, parce que vous parliez du problème avec votre fille. Donc, les animaux sont des éponges émotionnelles, et quand on a un souci dans sa vie, on sait qu'ils nous apportent beaucoup, qu'ils nous font du bien, mais ils ressentent aussi notre mal-être ou notre malaise. Donc, ça peut jouer. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de refaire assez prochainement une nouvelle analyse de sang, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit que votre chat mangeait beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont gourmands de nature, mais ça peut être le signe d'un problème de santé. Surtout si au fait de manger beaucoup, on rajoute le fait qu'ils boivent beaucoup. Voilà, tout ça, ce sont des signes qui ne doivent pas être laissés pour compte, parce que ce sont des symptômes qui sont importants. Et puis, bon, visiblement, les poils repoussent, donc les choses ont l'air peut-être de rentrer dans l'ordre. Continuez à lui donner des aliments de très bonne qualité, faites-le vacciner, profitez de cette visite chez le véto avec la vaccination pour voir avec votre vétérinaire quel type de vermifuge vous lui donnez pour peut-être adapter le vermifuge, et refaites un bilan sanguin dans, entre 3 et 6 mois. Voilà Anne-Marie.
Comment, lequel?
Lequel quoi?
C'est-à-dire le même bilan sanguin?
A priori...
Est-ce qu'il y a des choses à rechercher beaucoup
au minimum? Non, au minimum le même, mais les organes clés sur un chat qui vieillit, ce sont les reins, le foie, la thyroïde. Voilà, ce sont vraiment les choses clés à regarder. Donc votre vétérinaire a fait ce qu'il fallait, très sincèrement, Anne-Marie. Je comprends que ça vous agace. Parfois, il n'y a pas de solution vraiment évidente. C'est une surveillance au long cours. C'est améliorer un tas de petites choses du quotidien qui fait que le chat va vivre mieux et se sentir mieux.
C'est vrai que j'y suis très attachée, d'autant plus que il était très attaché à ma fille. Ma chienne de 14 ans, c'est pareil. J'ai perdu une chienne berger allemand suite à une erreur, par contre, de diagnostic. Le vétérinaire n'avait pas voulu m'écouter. Donc, c'est vrai que j'ai un chien et un chat qui vieillissent, et ça me prend au trip.
Et ben c'est pour ça qu'il faut les montrer régulièrement à un vétérinaire avec qui vous serez en confiance pour que tout soit fait. Anne-Marie, on vous embrasse, on vous souhaite bon courage. Et puis, ben, j'espère que vous allez trouver un logement sur Bayonne pour retrouver un petit peu de vie plus urbaine. Allez, très bon week-end à vous.
Si comme Anne-Marie, vous voulez poser vos questions à Natacha Hariot et ses invités, n'hésitez pas, 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et dans notre séquence à l'état sauvage, bon, on va parler avec Pierre Rigaud. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste habitué de cette émission, spécialiste de la faune sauvage. Et comme c'est la fête des pères, oui, demain, avec vous, on voulait parler des papas dans la nature. Est-ce que le règne animal est riche en papas exemplaires, j'ai envie de dire?
Pour être honnête, il n'y en a pas tant que ça. J'aimerais vous dire le contraire.
Faut bien dire. C'est bien de démarrer par quelque chose de très honnête. Mais il y en a quand même.
Oui, il y en a quand même. J'ai envie de prendre l'exemple d'animaux dont tout le monde connaît au moins la réputation, les renards ou les loups. Finalement, c'est un petit peu pareil chez les renards. Il faut bien dire aussi que c'est quand même la mère qui s'occupe beaucoup des petits et qui reste avec elle quand ils sont dans leur terrier, dans leur tanière. Là, on est au mois de juin, les jeunes renardos sont déjà sortis de la tanière. Mais quand ils sont petits, les pères vont se démener pour essayer de rapporter de la nourriture aux petits et à la femelle, à la mère qui garde les petits. Alors c'est un peu cliché, parce que quand les pères ont un rôle dans l'élevage des petits, dans la nature, eh bien c'est quand même souvent d'aller nourrir les petits et la mère, tandis que c'est la mère qui s'occupe plus généralement des petits. Et chez la plupart des oiseaux, c'est pareil en fait. Les petits passereaux ou les rapaces, tous ceux qu'on voit en Europe, en France, c'est souvent, presque toujours même la mère qui couve les œufs, pendant que le père va nourrir la femelle en allant chasser des oiseaux, en allant chasser des insectes, des chenilles, pour aller alimenter la mère qui dépense beaucoup d'énergie à essayer de donner sa chaleur aux œufs.
Ils font quelque chose, ils ne sont pas là juste au moment de la reproduction pour partir ensuite.
Pas seulement. Et même parfois, il y a des oiseaux chez qui le mâle vient remplacer la femelle quand elle prend des pauses, elle en a marre de couver, elle va voler un petit peu.
Ah, c'est la répartition des tâches. Oui. Chez alors, qui par exemple?
Alors, chez des rapaces comme les aigles oui, royaux, les milans royaux, les faucons pèlerins, beaucoup de grands rapaces. Alors, ce n'est pas du 50-50, c'est quand même la femelle qui couve à 80%, voire 90%, voire 99%, hein, pour être franc. Puis, par contre,
pas faire ma féministe de base, mais dans l'espèce humaine, on n'en est pas loin non plus.
Hein. Je vous l'accorde. Bon, sauf qu'évidemment, là, il ne s'agit pas de questions morales ou des choses qu'on pourrait appliquer aux humains, bien entendu.
On rigole, on est là pour se détendre.
C'est ça. Alors, le mâle a tout de même un rôle essentiel, parce que si la femelle elle reste toute seule et qu'elle n'est pas alimentée, bah les œufs, au final, ça ne donne rien, les poussins ne sont pas nourris. Après, quand ils sont grands, les poussins peuvent rester tout seuls sans perdre beaucoup de chaleur, donc la mère va elle-même chasser. Donc, comme il faut rapporter de plus en plus de nourriture, parce que les poussins grandissent et que là, les parents passent toute leur journée à chasser, donc que ce soit chez les aigles, chez les milans royaux, chez plein de rapaces, les parents, père et mère, se relaient pour nourrir les poussins quand ils sont grands. Mais au départ, c'est quand même la mère qui reste avec les petits. Et puis,
ce sujet fait réagir. On va partir au standard dans quelques minutes, mais on va marquer une petite pause pour le moment. Voilà, mais les papas poules, si je puis dire, font réagir au standard de Sud Radio. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
On avait Georges qui avait appelé le standard de Sud Radio, puis malheureusement, on vient de le perdre. Mais c'est pas grave, on va continuer avec ces papas qui, dans la nature, sont assez exemplaires. Notamment, Pierre Rigaud, avec des oiseaux qui couvent les œufs.
Oui, les mâles remplacent les femelles et s'occupent totalement de la couvaison des œufs et même des poussins. C'est seulement chez de très rares oiseaux, des oiseaux qui s'appellent les phalaropes, qui sont très rares en France, qu'on voit en migration l'été et l'automne, et qui nichent en Europe du Nord ou en Russie. Et ça explique pourquoi ce sont les pères qui couvent. Je vous explique en deux mots. Comme la saison de reproduction est très courte, parce que c'est des contrées où il fait très froid, il y a quelques semaines seulement pour élever les poussins, eh bien, la femelle pond des œufs que le mâle prend en charge entièrement. Comme ça, la femelle va aller pondre d'autres œufs après s'être accouplée avec un autre mâle.
Ah oui, d'accord.
Et elle a comme ça plusieurs descendants à plusieurs endroits. Comme ça, ça fait plusieurs nichées quasiment simultanées.
Tandis que ça permet finalement à l'espèce d'avoir le plus de chances de survie possible. C'est un peu ça l'idée.
Absolument, parce que dans des contrées moins hostiles, en tout cas au printemps, en France, il y a plein d'oiseaux, des hirondelles, qui font plusieurs nichées successives. Mais la mère s'occupe des plusieurs nichées les unes après les autres. Là, on condense tout en laissant le rôle essentiel au mâle. Et d'ailleurs, les mâles, à l'inverse de ce qui se passe chez tous les autres oiseaux, eh bien chez les phalaropes, par exemple, ce sont les femelles qui ont le plumage le plus chatoyant et les mâles qui ont un plumage discret, ce qui permet d'être camouflés pendant qu'ils couvent. ce qui est l'inverse de la plupart des oiseaux. Je sais, par exemple, si on prend tous les canards sauvages en Europe, eh bien, la femelle est terne et brune, ce qui permet qu'elle soit cachée quand elle couve.
C'est bien toutes ces explications sur la nature. C'est vrai qu'on oublie ces choses qui sont finalement des évidences quand on met toutes les informations bout à bout. Mais grâce à vous, on en sait plus. Peut-être un autre exemple encore de bon papa ?
Ah, y a un bon papa que j'aime bien, c'est un petit crapaud qui s'appelle Lalite, avec A-L-Y-T-E, Lalite accoucheur, un tout petit crapaud d'à peu près 5 cm de long qui vit à peu près dans l'ensemble du pays, qui ne vit jamais dans l'eau, sauf pour aller se reproduire. Et alors là, c'est assez extraordinaire et absolument unique. Lorsque la femelle pond ses œufs, le mâle prend les œufs en charge, il les féconde et il les emballe dans une sorte de gangue, dans une sorte de mucus collant. Il les colle à son postérieur et il va se balader comme ça, se trimballer sur la terre ferme avec un sac d'œufs. La mère ne connaîtra jamais les têtards. Et le mâle sait parfaitement le moment où il va falloir qu'il se rapproche de l'eau pour aller larguer les œufs au moment où les têtards commencent à frétiller dans les œufs. Et alors le rôle parfait du père s'arrête là, puisque lui-même ne connaîtra jamais les têtards qui grandiront tout seuls dans la mare.
Merci beaucoup Pierre Rigaud, et on va souhaiter bien sûr une bonne fête à tous les papas. Allez, on enchaîne avec vous Joël, et les mots des animaux, mots, je le dis chaque semaine, M-O-T-S. L'expression que vous avez choisie cette semaine, c'est quoi ?
Alors, reprendre du poil de la bête.
Ah bah écoutez, formidable, on y va.
Alors, se ressaisir, reprendre le dessus physiquement et moralement. Donc l'expression est ancienne, elle a eu plusieurs nuances, des sens à peu près proches de celui qu'il a aujourd'hui. Et au départ, on disait même prendre du poil de la bête. Ensuite, on a eu reprendre avec cette idée de regain d'énergie plus tard. Elle a voulu dire refaire la même bêtise, ne pas tirer les leçons de ses échecs. Elle a aussi signifié la reprise du travail après une maladie. C'était assez étonnant. Et également, celle-là, on la connaît, soigner le mal par le mal. Et ça, c'est le sens privilégié par les Anglais qui préconisent de reboire un peu d'alcool le lendemain matin après avoir fait des excès la veille quand on a une gueule de bois.
Excusez-moi, donc, j'ai rien contre les Anglais, mais à chaque fois, ils ont une drôle d'idée.
Voilà, bon. En fait, elle fait allusion à une croyance populaire qui voulait que l'on doive frotter des poils de la bête qui vous a mordu. Donc, dans la plaie, sur la plaie qui a été faite ainsi, pour que celle-ci guérisse plus vite. Et même Pline raconte qu'à Rome, on prenait des poils à la queue des chiens, on les faisait brûler, on mettait les cendres dans la plaie de la personne qui avait été mordue, et que c'était censé préserver cette personne mordue de la peur de l'hydrophobie, c'est-à-dire la peur de l'eau liée au fait qu'on ait attrapé la rage. C'est un des derniers stades de la rage.
D'accord.
Alors, je ne sais pas, les Anglais sont peut-être enragés, je ne sais pas, mais pas d'eau le lendemain matin. Voilà, le sens ensuite a glissé vers l'idée actuelle de reprendre des forces, reprendre le dessus.
Merci beaucoup, Joël. C'est un peu tiré par les cheveux. Heureusement, la médecine a largement progressé depuis. Exact. Allez, on enchaîne avec C'est votre histoire. Et une jolie histoire, justement, celle de la médiation animale.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et pour nous parler de médiation animale, j'ai le plaisir de recevoir Boris Albrecht, directeur de la fondation AP Sommer. Bonjour monsieur Albrecht, pouvez-vous déjà expliquer à nos auditeurs ce qu'est la fondation AP Sommer ?
Oui, bonjour. La fondation Adrienne et Pierre Sommer, c'est une fondation qui est dédiée, on va dire, à la médiation animale. On dira peut-être deux mots après sur ce que c'est plus précisément.
Ah bah oui, il va falloir qu'on explique un petit peu, effectivement.
Voilà, et donc elle est indépendante financièrement. On a la grande chance de tourner avec les intérêts du capital que nous ont laissé nos fondateurs, qui étaient des industriels dans les Ardennes. Et donc on ne collecte pas d'argent, on ne fait pas appel à la générosité du public. Et le rôle de la fondation, c'est d'accompagner les structures sociales, médico-sociales, les hôpitaux, les prisons, dans la mise en place de programmes qui font intervenir des professionnels de l'humain et des animaux spécifiquement éduqués.
Alors, ça m'amène à vous poser cette question d'éclaircissement. La médiation animale, c'est quoi exactement pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce terme?
Oui, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un terme qui est connu par tout le monde. Eh bien, c'est tout simplement comment un animal qui a été choisi et entraîné va pouvoir aider un humain en difficulté.
Ça s'adresse à quel type de personnes en difficulté?
Ça s'adresse à tout le monde, en fait. L'exemple le plus connu et le plus visible aujourd'hui, mais qui date depuis plus de 30 ans, ce sont les chiens qui sont éduqués, qui vont en maison de retraite. Mmh. Et on va travailler, voilà, chien visiteur, enfin, peu importe le nom qu'on leur donne, mais effectivement, ces chiens-là vont aider les personnes âgées, soit à les remobiliser dans le maintien et maintenir leurs compétences pour marcher, c'est-à-dire que la personne âgée ne va pas vouloir forcément marcher ou se déplacer. Puis si on a une double laisse, le kiné ou la psychomotricienne va pouvoir dire « Est-ce que vous voulez bien marcher avec moi ?» Puis spontanément, en général, elle va accepter, puis elle va se rappeler qu'elle a eu des animaux, et on va travailler aussi sur la mémoire et sur le sensoriel. Donc par exemple, ça c'est l'exemple classique, typique et qui est bien instauré maintenant en France, c'est celui des maisons de retraite. Mais c'est aussi par exemple des ânes ou des chevaux auprès de populations autistes, on va travailler sur la relation à l'autre, sur la confiance en soi, sur la communication, et puis voilà, ça touche toutes les populations, c'est aussi les soins palliatifs, les prisons, voilà, on touche.
Finalement,
on
travaille à la fois sur l'aspect physique, hein, de la personne qui est en souffrance, et aussi sur l'aspect psychologique, avec un travail sur la confiance en soi, sur peut-être, c'est aussi un moyen de faciliter la communication des personnes. C'est vraiment tous ces volets-là qui sont mis en œuvre.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, dès lors qu'on travaille sur un objectif bien précis, parce que évidemment, on peut pas travailler sur tous les objectifs en même temps. Donc on va choisir un professionnel de l'humain, va choisir un objectif, mettons la communication, et ensuite en cernant ses objectifs, il va choisir l'animal avec lequel il pense que ce travail-là peut être mené le plus facilement, le plus simplement, et il va travailler avec cet animal-là. Il y a beaucoup d'animaux qui sont éduqués, mais le chien ou le chat de monsieur et madame tout le monde sont pas forcément les plus à même de tenir ce genre de...
Oui, c'est ce que j'allais vous posez comme question. La médiation animale, ça ne s'improvise pas. On ne se dit pas, tiens, ben moi j'ai un chien ou j'ai un chat et je vais aller en maison de retraite proposer mes services. Non, c'est un vrai métier. Ça nécessite un tas de compétences, à la fois de connaissances de l'animal et de connaissances de l'humain. Et c'est un peu le mélange des deux, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Et du coup, les perles rares existent. Enfin, il y a des perles rares, mais elles existent. Elles sont peu nombreuses. C'est-à-dire des gens qui ont une double compétence, mettons un infirmier psychiatrique avec et qui est en même temps éducateur canin. Il y en a quelques-uns en France qu'on a soutenus, mais ils sont peu nombreux. Donc, en général, c'est plutôt un travail d'alliance entre le professionnel de l'humain et le professionnel de l'animal. Et pour revenir à ce que vous disiez, ce qui est tout à fait juste, c'est que le chien que j'ai à la maison, bah, peut-être qu'il a il est peut-être très bien, très tranquille à la maison, mais peut-être qu'en maison de retraite, il n'a jamais vu de déambulateur. Il y a toutes les odeurs qui sont dans la maison de retraite auxquelles il n'est pas habitué. Donc, ça peut plus créer une panique ou un stress chez l'animal plutôt qu'apporter du bien-être. Donc, il faut être très vigilant aussi au bien-être de l'animal quand il est dans cette dynamique et ces programmes de médiation animale.
Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que la fondation AP Sommer a été créée au début des années 70 et a été vraiment pionnière en matière de médiation animale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les animaux trouvent leur place dans tout ce processus de prise en charge des personnes malades ou des personnes détenues? Est-ce que petit à petit, on arrive à rompre les freins qu'il y avait à cela?
Oui, oui, oui. Alors, il y aura toujours des freins, il y aura toujours des gens qui sont contre et toujours des gens qui sont pour, et la vie est ainsi faite, et c'est pareil dans tous les domaines. On sortira... Concernant les gens contre, on ressortira toujours l'argument de l'hygiène qui a été maintes fois démonté. En tout cas, il faut entendre les arguments des parties adverses pour pouvoir y répondre.
Il faut
pouvoir répondre à des inquiétudes, c'est juste ça. Et mais oui, ça a sa place. J'en veux pour preuve le ministère de la Justice avec lequel on travaille depuis une dizaine d'années et qui maintenant, on a un tiers des prisons en France qui mettent en place une initiative de médiation animale. Et vraiment, on a fait partie d'un comité de pilotage restreint qui était uniquement les responsables des établissements, enfin des prisons, des surveillants, des directeurs, les écoles de formation, des directeurs. On a travaillé avec eux justement à la mise en place, à une structuration des programmes au sein des prisons. Comme ça, un directeur de prison n'est pas forcément obligé de mettre en place une activité avec un animal, mais il a tous les éléments éléments aujourd'hui pour pouvoir les mettre de façon... Ouais. Et vraiment, si on est capable de le faire en prison et dans les maisons de retraite, on peut le faire maintenant à peu près partout.
Très bien. Eh bien, merci infiniment, Boris Albrecht. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation AP Sommer. Merci d'avoir fait un focus pour nos auditeurs de Sud Radio sur la médiation animale et tout ce que les animaux nous importent comme bienfait. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Et oui, ça passe extrêmement vite. Merci à vous pour votre fidélité. On vous retrouvera bien sûr avec beaucoup de plaisir dès la semaine prochaine. Ciao.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.